Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, nous passons en revue les sorties du jour au cinéma. Stéphane Boutsock a notamment beaucoup aimé La Danseuse avec Lily Rose Depp. Côté musique, Hélène Segarra chante son amour pour la variété italienne dans un disque de reprise qu'elle nous présentera. Et coup de cœur de Steven Bellery pour le premier album d'un jeune américain, Thor Miller. À la télé ce soir, la saison 2 de la série Nina démarre sur France 2 et sur M6, premier numéro du nouveau magazine de Bernard de la Villardière, Dossier Tabou. Ce sont les choix d'Isabelle Morini-Bosque. Tout cela sans oublier Charlotte Arrigoni et ses Express du jour.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Votre séance cinéma du mercredi va donc commencer. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
On va détailler les belles sorties du jour dans un instant, mais tout d'abord, on fait place au box-office de la semaine.
Pour constater, grâce à nos amis du site cbo.fr, que Xavier Dolan a réussi son pari, vous avez été près de 400 000 à découvrir juste La Fin du Monde depuis mercredi dernier. Pour mémoire, Mommy avait démarré autour des 320 000 pour finir à 1,2 million. Derrière, Daniel Thompson fait un score honorable avec Cézanne et moi, 220 000 entrées environ. Le film d'animation Kubo et l'armure magique complètent ce trio de tête avec 150 000 tickets vendus. Notez que Victoria et Virginie Efira, mais aussi Franz de François Ozon, frôlent les 400 000. Enfin, les vieux pots ne font pas toujours les meilleures soupes et parfois même boivent le bouillon. Blair Witch n'a fait frissonner que 100 000 personnes.
À l'affiche, ce 28 septembre, Stéphane, une des comédies très attendues de cet automne 2016, Radin, de Fred Cavaillé avec Danny Boone. Vous nous en disiez le plus grand bien dès vendredi.
Ah bah, je vais continuer, parce que j'ai beaucoup aimé cette étude de mœurs conduites comme un thriller, l'histoire de François Gauthier, prof de violon virtuose qui se gâche la vie depuis l'enfance à cause de sa terreur de dépenser des sous. Quand l'amour et une fille cachée vont débarquer dans sa vie, eh bien ce fragile équilibre va voler en éclats. Tiens, trois exemples, de la radinerie extrême du garçon au supermarché, avec son ex et face à son banquier.
On écoute.
Ce qui nous fait un total de 12,88 €.
Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Allez.
S'il vous plaît.
Ça va, mademoiselle s'est trompée, ça va? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui? Oh là là, les chances sont incroyables. Hein.
T'es toujours aussi radin?
Non, pas du tout.
Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeau.
C'est une coïncidence.
Combien j'ai sur mon compte déjà? 248 596 €.
Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux.
Oh oui, il va même faire pire. Danny Boone excelle dans ce style de personnage désarticulé, à la fois physiquement et psychologiquement. Fred Cavaillé, le réalisateur qui jusqu'ici avait plutôt signé des polars musclés, est très à son aise dans ce registre comique. Il apporte même de la noirceur et de l'épaisseur à ce qui n'aurait pu être qu'une pochonne, mais qui se révèle une farce cruelle et parfois même sombre. C'est une vraie réussite. Donc, en attendant, Red Dingue, le nouveau film du réalisateur Danny Boone qu'on verra au mois de février.
Alors, toute autre chose à présent avec La Danseuse de Stéphanie DiGiusto.
Histoire d'amour et de talent qui revient sur la passion tumultueuse entre deux femmes durant la belle époque. Loï Fuller, artiste avant-gardiste qui, vêtue d'une longue robe de soie blanche avec les bras prolongés par des baguettes, exécutait des chorégraphies oniriques éclairées par des lumières ou des projections. Et Isadora Duncan, jeune prodige de la danse qui la consumera de son ambition avant de l'abandonner. Film intense sur la passion, le talent, la souffrance, formidablement interprété par deux jeunes comédiennes, Soko et Lily Rose Depp. J'ai d'abord demandé à la première si incarner une artiste qui sacrifie littéralement son corps pour son art passait obligatoirement par une propre souffrance physique. Eh bien, figurez-vous que la réponse est oui.
L'art qui est beau et qui est pur et que moi j'aime et qui me touche, ça passe par cette souffrance physique d'entraînement quotidien, danser à 3 mètres de haut sur une plateforme d'1,50 m par 1,50 m dans le noir, ébloui par des lumières qui viennent de tous les côtés, sans point de repère dans l'espace. Si je tombe et si je fais la moindre erreur, je me pète la gueule de 3 mètres et je suis dans un fauteuil roulant. Donc oui, évidemment, cette rigueur et cette discipline, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Voir un ostéopathe 3 fois par semaine pour me garder en vie, de me réveiller en plus pouvant mettre ma petite culotte toute seule parce que j'ai trop de courbatures, et de prendre des bains à l'aspirine pour détendre mes muscles. Et en même temps, comme c'est une artiste très visuelle, c'est dur de savoir de quoi ça a l'air. Et en fait, ça, je l'ai découvert qu'en voyant le film.
Soko, impressionnant dans le rôle de Loïc Fuller, face donc à Lily Rose Depp, fille, on le rappelle, hein, pour ceux qui auraient manqué les épisodes des six mois derniers, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, tout en fragilité et séduction pour le personnage d'Isadora Duncan. À 17 ans, la jeune comédienne est encore une débutante, mais elle a soif de faire ses preuves.
Pour moi, c'était beaucoup plus d'apprendre les mouvements, comment se porter comme une danseuse, comment bouger pour être fluide. Parce que Isadora, elle ne croyait pas en entraînement, elle croyait dans les choses très spontanées, très naturelles. Donc pour moi, c'était d'avoir cette fluidité. Pour moi, c'est le tout début, quoi. Je viens de commencer et j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec les gens, les actrices, les acteurs incroyables avec qui j'ai travaillé. Dans la première année de ma carrière, j'ai jamais imaginé que je serais allée à Cannes, à Venise, à Toronto. Enfin, c'est intense, mais je me sens très privilégiée et j'ai beaucoup de chance. Enfin, c'est pas toutes les actrices de 17 ans qui ont toutes les chances que j'ai eues de tourner avec les gens avec qui j'ai tourné et de faire les films que j'ai faits. Mais c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Moi, je suis là pour le boulot, je suis pas là pour toutes les autres choses.
Eh ben ça va continuer puisqu'on verra bientôt Lily Rose Depp aux côtés de Nathalie Portman au cinéma. En attendant, donc, on la retrouve elle aussi dans La Danseuse. Aujourd'hui, je vous signale la sortie de Aquarius, épatant film brésilien qu'on avait découvert à Cannes, mais en compétition officielle. Le portrait d'une vieille dame accrochée à son immeuble sur une avenue touristique qui s'oppose au rachat du bâtiment par des promoteurs, avec la découverte, pour nous en tout cas, parce qu'elle est très connue là-bas, oui, d'une magnifique actrice brésilienne qui s'appelle Sonia Braga.
Et puis un petit événement à découvrir sur nos écrans aujourd'hui. Le premier film jamais tourné sur un pape encore en fonction. On l'évoquait avec Laurent Gérard il y a quelques instants.
Exactement, le titre dit tout. Ça s'appelle Le Pape François, signé Beda do Campo Ferrio, film ibérico-argentin qui revient sur la vie de Jorge Mario Bergoglio, de sa jeunesse à son accession au trône de Saint-Pierre. Alors, on va être clair, il n'y a aucune ambition cinématographique dans l'affaire. C'est tourné comme une telenovela, mais l'acteur qui incarne le pape, il s'appelle Dario Grandinetti, est parfait, même si c'est vrai, les dialoguistes donnent l'impression qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une parole d'évangile et que la mer rouge va s'ouvrir sous ses mots. Mais il y a un vrai mais intéressant, on apprend des choses passionnantes, comme la passion amoureuse de la jeunesse du futur pape et sa volonté de faire des études de médecine avant qu'il ne découvre la foi. Le film est inspiré par un livre signé Elisabetta Piquet, journaliste italienne devenue l'amie du cardinal Bergoglio, puis du pape François, donc c'est sans doute celle de nos confrères qu'il connaît le mieux.
Ce film permet de comprendre pourquoi ce pape est ainsi, uniquement préoccupé par le sort des plus pauvres. Mais c'est aussi un animal politique qui ne cesse de s'attaquer à l'establishment mondial, quelqu'un qui a le courage de dénoncer et de mettre sa fonction en jeu. Mais il continuera à voyager sans gilet pare-balles, ni vitres blindées. Il est en position de force et il en use pour tenter de faire avancer positivement les choses dans un monde qui, comme il le dit lui-même, est au bord de la Troisième Guerre mondiale.
Elisabetta Piquet au micro d'Anne Lenir, la correspondante de RTL en Italie. Le pape François, donc, à découvrir au cinéma, chez le distributeur, on y croit. Voilà, ça c'est fait. Je vous signale aussi la sortie d'une autre curiosité dans la série Faisons donc des remakes, ça nous évitera de nous fouler à inventer des histoires inédites. Les Sept Mercenaires.
On ne peut pas dire du mal de mes Sept Mercenaires.
Version 2016, nouvelle version du western de John Sturges, oui, sortie en 60. Il y avait quand même Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson ou encore James Coburn au générique. Et bien là, ils ont été remplacés par Denzel Washington, Chris Pratt ou Ethan Hawke. Ça ne sert pas à grand chose. C'est plutôt agréable à regarder. Bien mieux en tout cas que le récent et navrant nouvelle version de Ben Hur.
Les chevaux sont bien dans les...
Les chevaux sont très très bien. Très bien, très bien au galop.
On va donc passer aux audiences télévisées avec Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
Eh bien, Médiamétrie, moi, sommes très contents. Enfin, moi, en tout cas. Car même si Blindspot est en tête avec 4 500 000 téléspectateurs et plus de 19% du public sur la une, ça mériterait mieux d'ailleurs, hein. Eh bien, le véritable gagnant, c'est le téléfilm Marion, 13 ans pour toujours sur France 3, qui rassemble 4 100 000 personnes et 18% du public sur France 3. C'est un excellent score et amplement mérité. Et en troisième position, bah, c'est l'inoxydable Stéphane Plaza avec ses maisons et ses appartements qui font marche bien sur M6. 12% du public, 2 900 000 téléspectateurs, c'est bien. Et alors, côté TNT, c'est TMC avec la série Profilage, 990 000 téléspectateurs.
comme Steven Bellery vient de vous passer une petite tote, j'ai cru qu'il y avait une annonce officielle. Ah oui,
c'est
vos mots doux. Je suis confus de m'immiscer dans votre vie privée.
Oh, n'exagérons pas.
dans quelques instants, notamment les vieilles canailles, avec bah Charlotte Arrigoni dans ses express.
RTL
ça ne concerne
matin.
Personne.
Laissez oui, j'ai bien vu.
Il est 9h10.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les express LVT.
9h12, bonjour Charlotte.
Oh, bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Très discret ces derniers mois, Jacques Dutronc a fait son retour sur scène hier soir pour la première fois depuis novembre 2014 et les concerts des Vieilles Canailles.
Oui, le chanteur a créé la surprise en participant au 100e anniversaire de la marque de lingerie Etam au centre Georges Pompidou à Paris. Un défilé en musique où l'on a pu voir aussi Ziavner ou encore Marie Naquet. De son côté, Dutronc a notamment interprété Les Cactus, Il est 5h, Paris s'éveille, mais aussi une chanson de circonstance.
J'aime les filles qui travaillent à la chaîne.
Jacques Dutronc, hier soir, donc, au défilé Etam à Paris.
Ça fait plaisir d'entendre sa voix, il est en forme vocale, oui, c'est très agréable. Kirk Douglas s'invite, lui, à son tour dans la campagne électorale américaine, Charlotte.
Ah, oui, à bientôt 100 ans, le dernier monstre sacré d'Hollywood prend position pour Hillary Clinton dans une tribune publiée par le Huffington Post. La star de Spartacus associe la candidature de Donald Trump à celle d'Adolf Hitler en 1933. À l'époque, on ne le prenait pas au sérieux, il était vu comme un bouffon qui ne pouvait décevoir une population éduquée et civilisée avec son discours nationaliste et haineux, souligne l'acteur. Il conclut, les experts ont eu tort.
Sortez les agendas, ça y est, on connaît la date des lancements, de lancement de la nouvelle saison de Danse avec les stars sur TF1.
Oui, une 7e saison qui commencera en effet le 15 octobre prochain à 20h55 sur TF1. Le casting s'est dévoilé petit à petit. On sait désormais que Sylvie Tellier, Olivier Mine, Julien Lepers ou encore Valérie Damido feront partie de l'aventure. Et ce ne sera pas la seule nouveauté de l'année. Le danseur Grégoire Lyonnais, le compagnon de la chanteuse Alizée, fera aussi son grand retour dans l'émission.
J'y vais ce soir pour les interviews.
Ah bah très bien. Non, j'ai cru que vous alliez participer à l'émission.
J'aimerais bien, mais il y a peut-être une limite d'âge, on ne sait pas.
Non. Il n'y a pas de question d'âge non plus dans le casting.
Je ne suis pas très bon en pas de deux. Ah d'accord. Alors que donne... cette semaine, le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express.
Eh bien, du côté des romans, Petit Pays de Gaël Faye est numéro 1 devant Écouter nos défaites de Laurent Godet et La Succession de Jean-Paul Dubois. Au rayon essai et documents, un quinquennat pour rien d'Éric Zemmour occupe toujours la tête des ventes.
Palmarès complet à retrouver dans L'Express. Fin du suspense, on connaît le jury du 20e festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez.
Oui, et c'est le président du festival, Omar Sy, qui l'a dévoilé sur Twitter. Omar Sy sera donc entouré d'Audrey Lamy, d'Isabelle Nanty, de Patrick Timsit et de Franck Gastambide. Le festival de l'Alpe d'Huez se tiendra du 17 au 22 janvier prochain à l'Alpe d'Huez.
Oui, mais bien ce festival. Hein.
Ah, j'adore.
Vous y serez ?
Ah, bien sûr.
Bah, voilà. Alors, on y sera.
Tout de là-bas.
Merci beaucoup, Charles.
C'est ça.
Pays merveilleux.
Ça sera la 20e édition.
Oui, 20e édition en plus. Oui. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Allez, on passe à la musique avec vous, Steven Bellery. Bonjour.
Bonjour à tous.
On commence avec Hélène Segarra, en fait. 2 ans après son dernier album, la chanteuse revient avec Amaretti. C'est un album de reprise de chansons italiennes.
Ouais, née d'un père italien, Hélène Segarra n'a jamais caché son amour pour la musique transalpine. On se souvient évidemment de ses duos à succès avec Andrea Bocelli ou Laura Pausini. Cette fois, l'artiste a plongé dans ses souvenirs. Elle reprend 13 morceaux des Madeleines de Proust comme Svalutation d'Adriano Celentano, sorti en 76. Giga tube interprété à l'origine par le groupe Ricky et Poveri en 80.
C'est
C'est la musique du film L'Effronté, à l'origine, avec ça Charlotte Gainsbourg.
Hélène Ségara a retravaillé ses morceaux avec son mari, le musicien Mathieu Leca, un disque familial, la bande-son de son enfance.
On passait beaucoup de temps en Italie avec mon grand-père, alors ce sont des gens de la terre, très très modestes. Mais quand mon grand-père voulait vraiment marquer le coup en me disant « Ah, t'as été sage !» Et quand on était en Italie, il y avait un épicier et j'allais choisir un amaretti qui est un gâteau aux amandes. Et c'était ma récompense et en même temps un moment de douceur que je partageais avec lui parce que c'est un homme qui a beaucoup compté pour moi.
Ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te. Delle prime parole d'amore, io ti amo.
Est-ce que vous trouvez que votre voix est différente quand vous chantez en italien?
Oui, là moi j'ai repris une coach parce que finalement mon italien était très très loin et que je voulais pas faire une prononciation qui soit pas jolie, etc. Et ça, ça a été un réapprentissage pour moi. Parce qu'en plus j'ai une famille qui parlait plutôt le patois piémontais. Finalement j'ai jamais fait attention si je disais Léo correctement, voilà.
Il Volo de Zucchero, revu par Hélène Ségara dans une version franco-italienne intitulée L'Envol.
Alors, il se trouve que cet album de reprise marque en fait les 20 ans de carrière d'Hélène Ségara.
Oui, Cœur de Verre avec le duo Vivo Perlé était sorti en 1996. Question à la chanteuse, comment vit-elle cet anniversaire?
Ça passe trop vite, c'est chouette d'avoir 20 ans déjà derrière soi d'amour avec le public et d'être toujours là. Mon ambition, c'était de réussir à concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Et je sais que forcément, si on veut les deux, on ne peut pas mener éternellement une carrière au sommet si on veut avoir une vie de femme et une vie de maman à côté. Après, je pense que dans ce que j'ai vécu, ça a été bien au-delà de mes espérances, c'est-à-dire des rencontres magiques comme avec Bocelli, qui est toujours mon ami, avec qui j'ai encore déjeuné il y a un mois. Et en fait, je n'en finis pas de m'émerveiller et d'avoir l'impression que je suis au bon endroit et que je fais le métier que je veux.
Amaretti, le nouvel album d'Hélène Ségara, sort dans 2 jours et on la retrouvera dans la prochaine saison oui. d'Incroyable Talent sur M6.
Autre sortie attendue, vendredi, l'apparition du premier album de Thor Miller, c'est comme ça qu'on prononce son nom ?
Exactement.
Voilà, ça s'appelle American English, Steven.
Ouais, c'est le meilleur premier album de la rentrée à mon sens. Thor Miller a 22 ans, il est né à Brooklyn, ses 16 chansons racontent la solitude, les amours adolescents, les doutes d'un gamin du 21e siècle. Premier extrait, Carter & Cash. C'est blues, rock, country, Thor Miller, voix suave, légèrement brisée, passe des graves aux aigus, de la mélancolie à l'exubérance. Thor Miller a commencé à chanter à cause d'un déménagement.
Yeah, so I moved from New York to New Jersey.
J'ai déménagé de New York dans le New Jersey. C'est juste à côté, mais les gens peuvent être très différents entre les deux États. Et les 6 premiers mois, j'allais toujours à l'école à New York, donc j'étais dans les transports pendant 1h30 chaque jour. Ma mère m'avait donné un iPod avec quelques chansons pour m'occuper. Elle y avait mis Ziggy Stardust, Rumours de Fleetwood Mac, le best-of d'Elton John, et j'ai écouté cela en boucle encore et encore. Je jouais déjà au piano, mais je n'avais jamais vraiment chanté ou écrit de la musique. Et là, j'ai voulu m'y mettre, j'ai été inspiré par ces albums et mon voyage musical a vraiment commencé.
À la dernière extrait, la chanson s'appelle Midnight. Il s'appelle Thor Miller, T-O-R, Thor sans H ni marteau. L'album, c'est American English, gros coup de cœur.
c'est riche, hein, il y a beaucoup de, d'influence et c'est extrêmement plaisant. C'était le journal musical qui était signé évidemment Stephen Bellery. Dans un instant, on se préoccupe de notre soirée télévisée à venir cette fois-ci avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Notre soirée télévisée. Nous allons commencer Isabelle Morini-Bosque par la série de France de Nina. Ça me dit quelque chose?
Normal. C'est la saison 2 d'une série médicale racontant le quotidien de Nina, infirmière dans le service dirigé par son ex-mari, avec qui, si j'ose dire, elle remet ça, et il y a bien que la responsable débordée du scanner qui l'ignore.
J'en ai marre de votre service. Votre patron m'a pas lâché de la journée jusqu'à ce qu'il décroche un rendez-vous. Il veut vous sauter ou quoi?
Non, c'est déjà fait.
Ah, voilà. On reconnaît au passage des comédiens jouant dans scènes de ménage, en famille, nos chers voisins, je vous dis pas qui est qui, vous verrez bien. Je vous dirai simplement que c'est un vrai feuilleton sympa du cousu humain, si j'ose dire, pour un hôpital.
Alors, vous avez aussi apprécié le nouveau magazine d'information de M6, Dossier Tabou.
Oui, alors soyons francs, quand j'ai appris que c'est Bernard de la Villardière qui allait présenter ce magazine documentaire traitant sans tabou de thèmes faisant débat dans la société, et que le premier thème c'était l'organisation de l'islam en France, je me suis dit, oulala. Et puis j'ai regardé. Et comme Philippe Robuchon dimanche, bah j'ai trouvé ça passionnant. Constamment clair, recadré dans le temps et dans l'espace et dans l'histoire. Nuancé, Bernard de la Villardière décontracté comme jamais. Pouf, jamais agressif et partout à l'aise avec les jeunes femmes voilées, avec les imams les plus contestables. J'ai particulièrement aimé sa rencontre avec Abdelhaï Mamoun, un imam laïque, républicain, modéré, qui dénonce la mainmise de l'étranger sur l'organisation de l'islam de France, qui prône l'amour de notre pays, le respect des lois de la République, dit que c'est aux imams de faire le ménage, avec aussi des scènes cocasses, comme lorsque le même Abdelhaï Mamoun s'étonne des appels ou textos qu'il reçoit de plus en plus fréquemment de fidèles paumés l'interrogeant sur tout et sur rien.
Salam, aujourd'hui peut-on jeûner? J'ai rendez-vous chez le dentiste, même si je saigne. Je pense que saigner, ça va casser le ramadan. Salam, comme si le mari ne jeûne pas sans raison valable, je dois divorcer?
Vous vous rendez compte? Il me demande est-ce qu'elle doit divorcer de son mari parce qu'il ne jeûne pas.
C'est un truc de malade.
Oui, alors... La femme qui l'appelle se demande si la circoncision est obligatoire pour un adulte converti.
Non. La circoncision ne concerne que les enfants en bas âge. Et encore, c'est une recommandation. Pour les personnes adultes, ils ne sont pas concernés par la circoncision. S'ils le souhaitent, ils peuvent se faire circoncire.
Voilà. Et là, je me suis tournée vers Bernard de la Villardière pour lui dire « Mais quand même, quand M6 a connu votre thème, elle vous a dit ta carte blanche ou vas-y mollo ? Or, il y a les mollos, c'est pas trop votre truc ?»
La M6, vous savez, c'est une chaîne responsable. Donc, on ne me laisse pas, comme ça, travailler tout seul dans mon coin.
Non, surtout vous.
Oui, c'est vrai qu'au bout de 15 ans, on commence à se connaître. Voilà, après, vous savez, je suis un journaliste objectif. Il se trouve qu'en plus, moi, j'ai une relation tout à fait particulière au monde musulman, puisque j'ai grandi au Liban, que j'ai vécu au Maroc, que j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai eu l'occasion de voir un islam apaisé dans la plupart des pays du monde. Voilà, ce qui n'est pas l'islam politique. Donc, je regrette que cet islam-là soit dégradé ou ait une image dégradée dans mon pays.
Ça va être quoi, la périodicité ?
Tout dépendra des résultats. C'est pour ça que je suis ravi que vous m'accueilliez à votre micro. Pas téléspectateurs, regardez cette émission parce qu'elle est passionnante. C'est le fruit de mois et de mois de travail d'enquête. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe, bien évidemment.
Donc, c'est une excellente émission ce soir. Alors, ce qui continuera pas, c'est son émission sur les animaux. Parce que, comme il dit lui-même, quand je plonge avec les requins ou quand je plonge au milieu des crocodiles, ça fascine personne, hélas. Et on est bien obligé de constater que c'est vrai. Pourtant, c'était sympa.
Il a de l'humour. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. On se retrouve dans un instant pour se dire au revoir et surtout accueillir Julien Courbet. Merci à toute l'équipe et grand bonjour à Julien Courbet.
Mais pourquoi vous ne faites pas faire les pubs en direct à Bernard de la Villardière?
Oui, ce serait une très bonne idée.
Quitte à les passer. Et s'il est là, faites-lui faire en direct. On gagnera du temps.
Dossier tabou.
Bon, et c'était
avec Julien Courbet.
Vos arnaques là tout au long de la matinée.
Oui, ça vous a plu?
Ah, j'ai adoré. Et vous savez, je vais vous en raconter deux, mais qui sont connus, mais qui sont quand même. Il y a du génie.
Allez-y.
Celui qui dit envoyez-moi un euro et je vous expliquerai comment devenir millionnaire. Vous savez que ça existait, ça?
Oui.
Et voilà. Et donc les gens, comme c'était qu'un euro, ben, se disent je vais l'envoyer, je vais pas perdre grand-chose. Et effectivement, le monsieur renvoyait un papier en disant faites comme moi. Donc c'est celle-là, moi, qui est une de mes préférées.
Elle est très bien.
Et la deuxième, c'est celui qui disait pour avoir un sexe plus gros, envoyez-moi 20 euros. Je vous assure qu'il y a des milliers de gens qui l'ont fait et ils recevaient une loupe. Et je vous assure que c'est vrai. Ça, on l'a fait.
Parce que c'est drôle, c'est merveilleux.
Et moi, je dis qu'ils ont du génie, ces gens-là, parce qu'on ne peut pas les attaquer en
plus. Non, c'est trop drôle. Il faut que vous nous fassiez un best-of.
Ah oui, on va faire ça. Bonne journée.
Bonne journée à vous.